Je vous invite à prier pour que la parole que nous allons partager vienne toucher nos cœurs. Seigneur notre Dieu, ta parole, elle est la vérité. Ta parole, elle est esprit et elle vit et elle est vie. Ta parole touche nos cœurs et nos consciences. Ta parole nous sanctifie. Et c'est de ta parole que nous voulons nous entretenir ce matin. Non pas celle qui va sortir de mes lèvres, bien qu'étant un serviteur, un instrument utilisé par toi, mais c'est ta parole au travers de moi qui sera entendue. Que ton esprit agisse au milieu de nous, mais aussi en nous, pour la seule gloire de ton nom. Père, je te demande et ôte de nos esprits tout ce qui pourrait nous distraire. Et je pense en particulier à ces familles, à nos bien-aimés qui vivent des moments difficiles avec leurs proches. Pour que cette parole puisse les guérir, cette parole puisse les consoler. Ta parole, elle est efficace. Et nous la réclamons dans chacune de nos vies, pour notre bien et pour la seule gloire de ton nom. Nous te le demandons en Jésus. Amen. En étant enfant, je recevais de la part de mes parents quelques conseils ou avertissements. À l'époque, hier, pour ne pas dire 50 ans plus tôt, même 60 ou 70, il y avait des gros foyers au charbon et l'avertissement du père, c'était « ne mets pas tes mains là-dessus ». Malgré ce que l'on pouvait me dire, avec le feu, avec les couteaux, avec tout ce qui était dangereux, ça ne m'a pas tellement servi, puisque j'ai quand même mis ma main au feu, puisque j'ai quand même coupé un bout de mon doigt par le couteau. Voilà. Et si je pouvais donner un titre à la parole que nous allons partager, est-ce que l'expérience des autres est utile pour moi, dans ma vie. Le Créateur, notre Dieu, a placé des lois physiques, ainsi que des lois chimiques, pour notre être, corps, âme et esprit. Si je lâche un objet devant vous, quelle que soit sa valeur, il va tomber parce que le Créateur a instauré la loi de l'apesanteur. Et si c'est un objet qui est précieux à mes yeux, il risque de se briser et cela va me coûter en peine, mais aussi en sentiment parce que j'aurai perdu quelque chose de précieux. Si j'avale ou si j'injecte dans mon corps qui n'est autre qu'un récipient, qu'un vase, des choses qui sont contraires à la loi chimique de mon corps, fatalement, celui-ci en subira les conséquences. Je pense et j'affirme qu'il en est de même quant aux lois spirituelles de Dieu. Quand on ne les applique pas, quand on n'en est pas conscient dans nos vies, fatalement, il y a des relations avec Dieu qui sont ôtées, on devient triste, ça se voit sur nos visages, il y a même par conséquence des relations avec les autres qui deviennent difficiles. Et je ne me place pas au-dessus du lot de chacun d'entre nous. Un jour, à l'église de pâturage, une sœur bien intentionnée m'a dit « Daniel, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Si Tu as l'air triste. Ton regard n'est plus honnête. Ton regard n'est plus joyeux. Je sauvais les apparences, mais au fond de moi, j'avais besoin de confesser et de restaurer la relation avec mon Dieu. C'est ce qu'Ésaïe a dit au Ésaïe 57, « Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent un mur, un barrage entre vous et moi. » Et Jérémie reprend cette même pensée en disant, « Ce sont vos péchés qui vous privent de mes bénédictions. » La chute d'un objet coûte, que ce soit en argent, que ce soit en émotion. La chute à cause du péché coûte. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je ne parlerai pas uniquement de la mort physique, je parle de cette mort dans nos relations, je parle de la mort plus importante, qui est celle d'un éloignement définitif d'avec la sainteté de Dieu. Lorsque les lois sont de Dieu spirituelles sont négligées, cela engendre aussi la mort. Et cela a coûté l'éloignement d'avec Dieu. Mais Dieu, en sa grâce, a souhaité que le pécheur vive. Et la restauration possible d'avec Dieu a aussi coûté. Comme quand je veux restaurer un vase qui s'est brisé, me coûte en argent et en temps, Dieu, qui voulait que l'homme ne meure pas mais qu'il vive, a dû engager un prix immense pour que nous soyons restaurés avec lui, pour que nous puissions nous tenir dans sa présence. Et le prix, c'est Jésus-Christ. Il a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Mais nous sommes après la croix. Et pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont ressuscités avec Christ. Et ils ont avec, devant eux une espérance éternelle. Ma libération de l'esclavage du péché a coûté très cher aux yeux de mon Dieu qui est mon sauveur. Bien-aimés, ne balisons pas. C'est ça qu'on dit, hein? Ok? L'amour de Dieu ni ses avertissements pour nous. Je voudrais lire avec vous 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, comme introduction. Toute écriture. L'apôtre Paul fait mention de l'Ancien Testament, mais fait aussi mention des pages du Nouveau Testament dont il avait accès. Et pour nous qui avons entre nos mains le livre précieux, nous disons que toute la Bible est parole de Dieu. Elle est écriture de Dieu. Toute écriture est insufflée, inspirée de Dieu, utile. Autrement dit, elle est profitable pour nous, pour nous enseigner, c'est-à-dire pour apprendre de lui, mais aussi apprendre de nous, pour apprendre quel est son projet et comment y arriver, pas par les œuvres. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre sur le chemin, à rectifier constamment le tir lorsque le Saint-Esprit vient toucher nos cœurs et nos consciences, de façon que nous puissions suivre comme disciples le Christ lui-même. Tel il est, tel nous devons être sur cette terre. Elle est utile, elle est profitable pour enseigner, pour convaincre, mais aussi pour corriger. Elle ne souligne pas nécessairement, uniquement, nos faux pas, que le Saint-Esprit convainc, mais elle est là pour nous apporter le remède, pour nous corriger, pour nous dire « arrête d'aller par là, va de l'autre côté ». Elle est là pour nous instruire dans la justice. Ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et le Seigneur Jésus reprendra « chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Et aujourd'hui, nous vivons l'injustice, contraire à la volonté de Dieu. Et l'apôtre de continuer en disant, cette parole-là, qui est si profitable pour tous les aspects de votre vie, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire atteigne à une maturité spirituelle, puisse avoir le saint discernement de toutes choses, pour choisir le chemin qui est bien, qui est bon, qui est le chemin de la vie, et écarter de sa vie tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nuisible et détruit, attire vers le bas, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous sommes rendus bien-aimés, aptes à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, pouvait dire, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées lui-même d'avance, afin que nous les pratiquions. Et l'apôtre de continuer aux Éphésiens en disant, c'est pourquoi vous autrefois, vous étiez incirconcis. Sous-entendu, circoncis-vous de cœur dans votre vie. Je vous invite à prendre, parce que on est dans l'introduction d'un sujet qui va nous conduire durant plusieurs semaines éparpillées durant l'année académique. 1 Corinthiens chapitre 10, le chapitre précédent qui a été lu lors de la Sainte Cène, et je lis à partir du verset 11. Ces choses, les choses que Paul énumère, Paul leur rappelle des faits historiques au peuple d'Israël. Lors de son exode dans le désert et de quelle manière Dieu les a arrachés de l'esclavage et de quelle manière sa bonté s'est exercée chaque jour pour pourvoir à leurs besoins dans le désert. Mais, il y a un mais. Et nous continuons la lecture. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, c'est une parole d'avertissement solennelle pour nous. Quand nous regardons le monde autour de nous, nous voyons une concordance flagrante en ce que l'Esprit de Dieu souligne par l'entremise de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à son enfant Timothée dans les deux épîtres. Dans les derniers jours, il en sera comme cela. Et nous voyons ces choses en train de se réaliser. Et depuis quelques jours, les hommes, moi, j'avoue, j'ai peur de celui que je côtoie. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il va atteindre ma vie? Nous avons peur et nous sommes dans ces temps difficiles que le Saint-Esprit souligne et pour lesquels Jésus disait, voilà, relevez vos têtes, la délivrance est proche. Verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des gens intelligents, à des gens qui ont été renouvelés dans leur entendement, qui savent raisonner, qui savent faire les bons choix de vie. Et c'est ce que Paul dit, je parle comme à des hommes intelligents, des hommes et des femmes, hein, des jeunes. Jugez vous-même de ce que je dis. Paul, bien-aimé, dans ce chapitre, rappelle quelques faits historiques du peuple d'Israël. Mais il rappelle aussi que malgré la bonté de Dieu, le peuple est rentré dans les murmures, dans les querelles, dans les doutes, dans la médisance de serviteurs de Dieu tels que Moïse. Il rappelle le regret qu'ils ont d'avoir quitté le royaume des ténèbres, l'Égypte. Ils voulaient retourner, manger à nouveau des ailes ou des os et des oignons. Ils voulaient retourner alors qu'ils avaient la manne, qu'ils avaient le rocher qui les suivait pour leur donner de l'eau, qu'ils avaient leurs sandales qui ne s'usaient pas. Le rappel, leur idolâtrie, rappelez-vous le veau d'or. Le rappel, leur convoitise, des plaisirs charnels du pays qu'ils avaient quitté. Cela fait-il écho à nous, chrétiens du XXIe siècle, dans nos pensées? Et Paul, en parlant de cette histoire, nous dit à nous que cette histoire a une autre valeur qu'une valeur historique, qu'elle a une valeur spirituelle pour nous. Il devrait servir d'exemple à nous chrétiens d'aujourd'hui afin de ne pas tomber dans les mêmes travers. Il faut bien sûr rester humble. Il faut réclamer la sagesse d'en haut pour ne pas tomber dans ces mêmes travers parce que nous sommes de la même trempe qu'eux. C'est ce que Paul semble dire, prenez garde si vous vous croyez debout, faites attention de ne pas tomber. C'est ce que Paul est en train de rappeler, vous êtes de la même trempe qu'eux, donc restez attachés à Jésus-Christ et faites de ces expériences du passé des choses que vous allez éviter. Paul est en train de leur dire, mais ne faites pas comme eux. Le pasteur à l'assemblée où j'ai exercé un ministère avait l'habitude, et que c'est avec raison qu'il a martelé une seule phrase qui est restée dans ma tête, hein, que la folie d'autrui t'enseigne la sagesse. Je la répète, hein, que la folie d'autrui t'enseigne la sagesse. Alors la question reste entière. Est-ce que l'expérience des autres va me servir à moi? Mon vécu me dit pas toujours. On aime bien faire ces expériences à soi. Et pourtant, Dieu place devant nous l'histoire écrite dans sa parole pour aller de l'avant dans son chemin, pour le suivre en tant que fidèle disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de renoncer à tout et à mon moi. Ce n'est pas facile de le nourrir, ce moi-ci qui m'est tellement si cher pour suivre Jésus-Christ. La vie sur cette terre est comme, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein? C'est un chemin qui est étroit, qui est rocailleux. La souffrance du monde, nous la partageons. Mais avec une vie intérieure qui est différente et qui fait toute la différence. L'histoire que Dieu a voulu rapporter dans le livre de Malachie, parce qu'au mois d'avril, j'avais dit à Jacques, tiens, j'ai sur le cœur de parler de Malachie. L'histoire qui est rapportée dans le livre de Malachie est une histoire qui est vieille, mais vieille, de 2500 ans. A-t-elle encore pour nous chrétiens du 21e siècle une valeur spirituelle et morale? Quelque chose qui s'est passé 400 ans environ avant la naissance du Seigneur Jésus. Alors d'emblée, je vous dis ceci. Mon professeur à l'école secondaire m'a toujours dit « Daniel, t'as un pied ». Et c'était le professeur d'histoire. Et dans le Borinage à Mons, être un pied, ça veut dire t'as un zéro. Et je dois encore avouer que même aujourd'hui, l'histoire, ça ne rentre pas. Je ne sais pas pourquoi, alors que d'autres ont certaines facilités. C'est pour vous dire que je vais rapidement essayer de circonscrire l'histoire et je vous renvoie à ceux qui sont plus savants que moi dans ce domaine historique pour mieux comprendre où ça se situe, le livre de Malachie. Voilà. Je pense sincèrement, même si je suis un perroquet, je pense sincèrement qu'il est utile de cerner, de situer la période de Malachie. Aujourd'hui, on tire de la parole de Dieu des conclusions qui vont dans tous les sens. Et les promesses que Dieu a faites pour Israël, voilà. N'oublions pas qu'Israël est un peuple terrestre, qui est béni, que l'Église est un peuple céleste. S'il y a des promesses qui sont données pour Israël, elles ne s'appliquent pas nécessairement à l'Église, peuple terrestre. Toutefois, comme nous l'avons lu, toute écriture est divinement inspirée. Donc, même si ces promesses ne sont pas applicable pour ma vie dans le quotidien, je peux en retirer de la substance pour mon âme. Et c'est celle-là donc que je veux souligner, c'est cette valeur spirituelle tout au long de ces mois. Selon nous avons dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Je voudrais, avant de commencer à lire le premier verset de Malachie, simplement circonscrire la période dans laquelle Malachie a écrit. Donc, ça se passe aux alentours. Si vous ne suivez plus, vous levez la main, j'arrête et ce sera un grand plaisir pour moi. Parce que l'histoire... Donc, je fais ça sous le contrôle de Jacques, qui est plus spécialiste que moi. Voilà. Donc ce sont des événements, écrits dans Malachie, qui se passent bien après le schisme, c'est-à-dire la division du peuple d'Israël avec les tribus du nord, les tribus du sud. Hein. Et avant, il y avait des rois communs, il y a eu Saül, David, Salomon, où il y a eu cette division, un peu comme on voit en Belgique, on veut séparer le nord du sud. C'est ce qui s'est passé, mais là de manière réelle. Et chacun, les 10 tribus du nord, qu'on appelait Israël, avait leur roi, et les deux tribus du sud avaient leur roi. Ok. Et puis, à cause de leur désobéissance, la parole de Dieu s'est exercée. Ouf, ils sont partis en exil, à Babylone. Daniel, pas moi, mais Daniel, a été un des premiers à partir avec 3 de ses amis. Le roi s'appelait Nebuchadnezzar. Ok. Vous me suivez, hein? Oui, très bien. Et puis, il y a Agé et Zacharie. Tiens, je ne savais pas que c'était ensemble, là. Mais bon, ok, dans cette période, il y a Agé et Zacharie, ainsi que Zorobabel, qui interviennent. Zorobabel, qui était aussi en captivité à Babylone, et qui devient le chef d'un premier groupe d'exilés qui reviennent vers Jérusalem, Zorobabel. Et grâce à Agée, Zacharie, Zorobabel, voilà, il y a la reconstruction du temple. Et puis, un peu plus tard, quelques décennies plus tard, il y a Esdras, le scribe, qui ramène avec lui aussi un autre groupe de l'exil. Et avec lui, il emporte, j'ai dit, des bienfaits que le roi de Perse, Artaxerxès, lui donne en disant, voilà, voici des biens financiers, des moyens financiers pour que vous puissiez acheter des animaux, des matériaux, pour que le culte dans le temple reprenne vie. Et c'est de lui que, c'est par Esdras que le peuple d'Israël va réapprendre la parole de Dieu, avec ses exigences et aussi ses joies, ce qui fait qu'Esdras dira, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et cette joie, il la puisait dans la parole de Dieu. Ça va jusque-là, hein? Oui. Donc, Agée, Zacharie, Zorobabel, Esdras, voilà tout cela dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Un peu plus tard, voilà encore un autre personnage qui apparaît. Et son nom, c'est Néhémie. Néhémie, qui est gouverneur de Perse, enfin, avant d'être, oui, gouverneur, mais il était un sommelier du roi. Et quand on est en exerçant sa fonction de sommelier, donc distributeur du vin, quoi, auprès de la cour du roi, il y a quelqu'un, Anani, qui vient justement de Jérusalem, qui vient lui rapporter comment se trouvent les murailles. Et Jérémie a le cœur qui est attendri par cela. Et il demande au roi s'il ne peut pas avoir un congé, je ne sais pas si c'était avec solde ou sans solde, mais d'avoir un congé pour aller vers Jérusalem. C'est ce que le roi va lui accorder. Et c'est ainsi que sous Néhémie, gouverneur de Perse, qui est d'origine juive, voilà qu'il y a eu cette autorisation de partir vers Jérusalem et de reconstruire la muraille. Ses portes aussi, avec le peuple sur place. Il suffit que vous relisiez Néhémie chapitre 3. Ainsi donc, le gouverneur Néhémie fit aussi en plus d'autres réformes, à savoir des réformes financières qui ont relation avec le pauvre et l'orphelin et la veuve. Il a fait aussi des réformes sur le respect de la parole de Dieu, sur le rappel de l'alliance que Dieu avait faite avec eux et qu'eux en étaient loin. Il a essayé de restaurer cette relation. Il a parlé du sabbat, des dîmes, des prémices, voilà tout cela. Et puis quand son mandat a été terminé, 12 ans, le roi lui avait donné un mandat de 12 ans, le roi de Perse, Artaxerxès, lui dit, hé là, 12 ans c'est fini. Tu dois revenir au pays. Et pendant son absence, de très courte durée, le peuple s'est à nouveau vautré dans le péché. Il a oublié tout ce qu'il avait entendu, il a oublié l'alliance avec Dieu. Le péché s'est réinstallé dans le peuple. Et Néhémie, quand il revient vers Jérusalem, il constate cela. Vous lirez Néhémie chapitre 13. Quand je lis Malachie, je vois les mêmes observations que lors de l'absence de Néhémie. Néhémie est revenu deux fois. Hein? Il est venu deux fois. Et c'est lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois vers Jérusalem qui constate la dégradation spirituelle du peuple. Lorsque Néhémie revient à Jérusalem, il retrouve un peuple dans une situation abominable, de ruine, de péché. Malachie dénonce les mêmes faits. Certains, et je fais confiance aux historiens, aux savants historiens, pour dire que peut-être que Malachie et le gouverneur Néhémie travailler ensemble, point d'interrogation, il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, Malachie parle d'un événement qui se situe aux environs du deuxième retour de Néhémie, avant, après, pendant, prépa. Mais enfin, c'est la même situation qui est dépeinte. Israël n'a plus de roi. Et Malachie appelle Israël à la fois les tribus du nord et les tribus du sud. Il rappelle l'histoire du peuple en affirmant que malgré les années de l'exil, cela n'a rien à voir avec un Dieu qui les a oubliés. Dieu est amour. Dieu restaure. Dieu désire ramener à lui. Et que leur exil et que leur situation n'est autre que la conséquence de leur désobéissance. Malachie explique, et nous le verrons, explique que ce peuple a toujours un avenir et une espérance en Dieu. Il explique que Dieu les aime malgré les apparences, que Dieu désire leur pardonner, qu'il est toujours le peuple choisi et bien-aimé, et qu'il désire renouer alliance avec lui s'ils reviennent à Dieu. Au temps de Malachie, Israël a donc retrouvé son pays, sa vie politique, sa vie religieuse, les sacrifices ont repris, la vie de Dieu est présente, mais je serais tenté de dire qu'ils honorent Dieu de leurs lèvres et que leur cœur en est bien loin. Et au travers de Malachie, Dieu sonde le cœur de son peuple. À plusieurs reprises, quand on lit les prophètes, il y a toujours ce même message, de revenir à l'Éternel, de se repentir, de confesser les péchés. Et tant qu'il n'y a pas cette confession, il y a fatalement ce péché qui ronge au-dedans de nous. Lisez le psaume 32 ou 33, 32. Dont la suite se retrouve au psaume 51, où David a péché. Et Malachie, lui, plutôt que de s'adresser à l'individu, il va mettre la loupe sur Israël, sur le peuple. Si donc nous sommes percutés par la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est en tant qu'Église, pas seulement à Glun, mais partout dans le monde entier, que Dieu va s'adresser au travers de Malachie. C'est à l'Église. Est-ce que cela va nous servir d'exemple? Vous allez me dire, oh, ce que Malachie a vécu, je ne vois pas bien l'heure. Ce que Malachie a vécu, ça fait 2500 ans avant nous, les choses sont bien changées. Nous découvrirons à sa lecture, et je vous invite à le lire, 4 petits chapitres. C'est le dernier de l'Ancien Testament, mais pas se tromper. La situation économique, très difficile, très préoccupante. C'est difficile de nouer les deux bouts. Le peuple tient Dieu responsable de ses difficultés. Ça accuse Dieu. Et aujourd'hui, l'Église ou le chrétien, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je suis là? Il y a un relâchement spirituel, l'idolâtrie. Dieu n'est plus mis à sa place. Il y a d'autres dieux, petits dés, qui ont pris la place du seul vrai Dieu. Et on pourrait en faire une liste. Les prêtres, ceux qui se revendiquent d'être responsables, du peuple de Dieu, ceux à qui Dieu a donné un ministère et qui portent le nom de Dieu publiquement, sont loin de Dieu. Et aujourd'hui, que ce soit, je vais dire, les religions monothéistes, donc je parle des prêtres catholiques, je parle des pasteurs, je parle de l'imam, je parle de toutes ces religions, sans parler s'ils sont dans la vérité ou pas, tel n'est pas mon propos, mais je parle de ceux qui portent le nom de serviteurs de Dieu, qui font des gaffes, des choses qui sont abominables, que le monde ne peut pas supporter. Ils sont en fait, comme je l'ai dit un jour à un responsable, tu es là comme un aveugle qui conduit un peuple à devenir aveugle. Et c'est la situation du temps de Malachie, du peuple et des prêtres qui y étaient. Sommes-nous différents aujourd'hui? Les fêtes de l'Éternel, il suffit de regarder qui étaient des occasions de joie, qui devaient être festives, qui devaient louer l'Éternel. Il suffit de regarder les évangiles, elles ont cessé d'être les fêtes à l'Éternel. Elles sont mentionnées comme des fêtes religieuses, des fêtes juives, comme on est loin de la vie qui doit animer ces fêtes. On verse dans l'injustice, le relâchement moral, la foi. Jésus disait, mais quand je reviendrai, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Plusieurs dans le peuple de Dieu abandonnent la foi. L'amour du plus grand nombre, dira Jésus, se refroidira. Le zèle pour la maison de Dieu, on est plus des consommateurs que des acteurs. Le zèle diminue, se refroidit. Il y a le découragement, il y a l'abandon. Où Dieu est dans ma situation? Ce qu'ils ont vécu et dit, mais bien aimé, mais ça m'interpelle. Ça a une relation pour moi. C'est donc dans ce contexte que Malachie, le messager de Dieu, serviteur de Dieu, intervient. Mais il intervient avec une vision claire, pas brouillée, hein, pas dans le brouillard. Il y a une vision claire de son avenir, de l'avenir du peuple. Il a une vision claire de qui est Dieu. Et on parcourra ça plus tard, mais il est le Dieu de majesté. Il est le Dieu de gloire, dira-t-il. Il est le Dieu de sainteté. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de grâce. Il est l'Éternel des armées. Il est juste dans toutes ses voies. Il est parfait. Son amour est saint et immuable. Il est prêt à pardonner. Et ça continue. Comme j'ai envie d'être animé de l'esprit de Malachie, malgré les circonstances qui nous animent. Qui est donc Malachie? On ne sait pas grand-chose de lui, je vous le dis. Malachie est parmi les 12 petits, et je mets entre guillemets, les 12 petits prophètes. Petits par rapport à des prophètes qui ont écrit des briques, quoi. Hein. Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, voilà, ils ont écrit des briques. Malachie, les autres petits, trois, quatre petits chapitres, et puis on ne va pas plus loin. Mais alors, quel contenu qui doit nous interpeller, qui doit nous avertir? Il est, comme je l'ai dit, le dernier livre de l'Ancien Testament, de nos Bibles. Je pense qu'il est bien à sa place, là, comme dernier. Car, chronologiquement, il est le livre qui fait la charnière entre deux alliances. ou comme on le dit, deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et moi, je préfère, excusez-moi, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle, elle est éternelle. Hein? Ah, voilà. Elle est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ. Un sang qui a été versé une fois pour toutes. Il introduit, mais ce Malachie fait charnière entre deux alliances, deux testaments. Et après Malachie, Dieu va fermer sa bouche. Silence. Dieu fait silence. Et ce silence sera interrompu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dont Malachie, nous le verrons, dévoile. Malachie annonce Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va lui-même annoncer le Sauveur en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste qui sera le dernier grand, c'est Jésus qui le dit, Matthieu 11, le dernier grand prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi grand? Est-il plus grand que Malachie que les autres? Non, c'est parce qu'il a le privilège d'annoncer le Sauveur, l'enfant qui est né et le Fils qui est donné pour être le salut pour toutes les nations, pour qu'il expie nos nombreux péchés. Voilà ce qui est de Malachie. Et maintenant, allez, pour qu'on ait au moins l'occasion de découvrir Malachie, je vous invite à rechercher dans vos Bibles Malachie, on va s'arrêter au premier verset. Malachie, chapitre 1er. Malachie, chapitre 1er. Et on va lire la première phrase. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par l'entremise de son serviteur Malachie ou Malachie. Oracle, proclamation, parole de Dieu qui doit être prise au sérieux. Les traductions ne sont pas tellement belles, au même titre qu'aujourd'hui, quand au gouvernement, on essaie de traduire du français en flamand, il faut toujours plusieurs experts, et je pense que la traduction de ce premier mot, en hébreu massau, traduit dans ma Bible oracle, dans d'autres j'ai été vérifié, proclamation, sentence, veut dire exactement charge, fardeau. Bien-aimé, Malachie reçoit de la part de Dieu un fardeau à porter la parole de Dieu pour le peuple. Et cela doit être pour le peuple d'alors un fardeau dans sa conscience. Sa conscience doit être pesée à la balance de Dieu. Ça doit être un fardeau sur le cœur et la conscience, sur les pensées du peuple. Ce que je dis, dit Malachie, c'est de la part de Dieu, c'est pas ma bouche. Je veux ce que Dieu veut pour vous. Et c'est une charge pour moi d'aller vers vous, peuple d'Israël, qui êtes corrompus. C'est une charge de parler une parole qui est sévère, mais une parole qui est consolatrice, pleine d'espoir, pleine d'espérance et de vie. Je suis pas là pour vous tuer, au nom de l'Éternel. Je suis là pour que vous viviez. Ce message, donc, qui est une charge, doit être aussi une charge dans le cœur et la conscience du peuple d'Israël. Elle doit peser lourd pour qu'elle devienne vie et consolation. Son message est simple. Il se présente sous forme de dialogue entre Dieu et le peuple, de questions-réponses, d'un va-et-vient entre Dieu et son peuple, entre des questions et des réponses très vague. Des objections. Et pour clôturer, pour vous inciter, pour vous donner le goût de relire ce merveilleux livre qui clôture l'Ancien Testament, parce qu'il doit faire écho dans ma vie et dans la vie de chaque Église, je vous propose de relire les 9 suggestions qui sont, objections qui sont placées dans ce livre et qui vont égrener nos différentes semaines. La première objection, je ne fais pas de commentaire, je lis. À vous de découvrir comment ces objections ont été dites. Malachie 1, verset 2. C'est l'Éternel qui parle au peuple. « Je vous ai aimé. » Que répond le peuple? « En quoi nous as-tu aimé ?» Quelle ironie! « En quoi nous as-tu aimé ?» Il lève le poing vers le ciel. Interpellation suivante. Malachie 1, verset 6. La fin... Oui, bon, je vais lire le verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom? Voilà ce que l'Éternel dit, vous êtes des sacrificateurs. Et reprenant ce que Pierre, dans son épître, dit, nous sommes tous des pierres vivantes lorsque nous avons été rachetés et régénérés, et nous sommes devenus par grâce des sacrificateurs. Donc, on met pas le dos sur les responsables, les anciens, les pasteurs, les diacres. Non, hein, on est tous responsables devant Dieu. Et l'Éternel te dit, à vous qui êtes sacrificateurs, vous méprisez mon nom. Et vous dites, vous peuple, mais en quoi avons-nous méprisé ton nom? 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, mais en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Oh là là. 1, verset 7. Et puis, j'ai noté ici, 1, verset 13. Non. Oui, c'est bon? Voilà. Vous dites, ben oui, ça commence comme ça. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme. Ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Vous me fatiguez, vous me dédaignez, mais en quoi te dédaignons-nous? Ensuite, un peu plus loin, chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi? Oui, il faudrait peut-être, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, mais pourquoi tu n'agrées pas? Pourquoi vous dites, verset 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, mais en quoi t'avons-nous fatigué? Chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, mais en quoi t'avons-nous trompé? 3, verset 13, j'ai noté. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit de toi, contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Et parmi ce peuple qui est loin de Dieu, il y a un résidu qui est fidèle. Et nous lisons cela au verset, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Que dans ce temps de ruine à tous égards, nous soyons de ces hommes debout, de ces femmes debout, fidèles à la parole de Dieu, qui y obéissent et qui la mettent en pratique. C'est le succès de notre vie. C'est le succès de notre vie. Alors, si vous permettez, tout au long de cette année académique, nous aborderons ces différentes interpellations et on s'interrogera, est-ce que moi aujourd'hui, je ne serais pas comme eux? Est-ce que leur exemple ne me servirait pas pour ma vie spirituelle? Et pour terminer, j'aimerais bien que l'on chante un cantique, le feu du fondeur. Et pendant que les musiciens se préparent, David, au psaume 139, pouvait dire ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve, fais des expériences, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est ce que je nous propose à chacun et à l'Église, d'être sur cette voie de la bénédiction pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.